VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 18 juillet 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia pour commencer les titres. Au Nigeria, l'opposition remporte une élection test avant la présidentielle de février 2023. En Somalie, 5 morts dans un attentat à la voiture piégée hier dans le centre du pays. Au Soudan, grenades lacrymogènes et défilés dimanche contre l'armée et les violences tribales. Premier cas du virulent virus de Marburg confirmé au Ghana. L'Iran a la capacité de fabriquer une bombe nucléaire, dit un ancien ministre iranien des Affaires étrangères. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumfatine, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Nigeria, le parti au pouvoir du président Muhammadu Buhari a perdu une élection cruciale dans un état du sud-ouest à 8 mois de la présidentielle. C'est la deuxième élection test depuis que le pays s'est doté d'une nouvelle loi électorale, nous dit Gilbert Tamba à Abuja.
Le sénateur Ademola Adeleke, candidat du PDP, la principale formation d'opposition nigériane, a été déclaré vainqueur à l'élection au poste de gouverneur de l'État d'Osun. D'après la Commission nationale électorale indépendante, M. Adeleke a recueilli plus de 403 000 voix pour battre le gouverneur sortant Adegboyega Oyetola du parti APC au pouvoir. Le nouveau gouverneur prend sa revanche car il a perdu en 2018 face à Adegboyega Oyetola qui a recueilli un peu plus de 375 000 voix. 15 partis politiques avaient présenté des candidats au poste de gouverneur de l'État d'Osun. Ce scrutin est le dernier test avant les élections générales et présidentielles du 25 février 2023. Le PDP contrôle maintenant un état de plus dans le sud-ouest du pays, après avoir remporté Oyo en 2019. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
En Somalie, 5 personnes ont été tuées hier dans un attentat à la voiture piégée visant un hôtel réputé du centre du pays. L'attentat a été revendiqué par les islamistes Chebab, Claire Morin-Gibourg.
L'explosion a fait également 14 blessés et détruit l'hôtel et des bâtiments adjacents dans la ville de Johar, au nord de Mogadiscio. Selon la police, les assaillants ont foncé avec un véhicule bourré d'explosifs contre le mur extérieur de l'hôtel Nour Dob, très fréquenté par des responsables politiques locaux. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque. Des responsables de l'administration régionale sont parmi les blessés. Le ministre de l'aide humanitaire et de la gestion des catastrophes de l'État, Abdi Fattah Kor Gab, a déclaré à VOA que l'attaque a visé cet hôtel populaire car il était fréquenté par des législateurs, des ministres et d'autres responsables locaux. Il a déclaré que les blessés, dont le ministre de la Santé de l'État, ont été transférés dans un hôpital de la région.
De nouvelles manifestations ont eu lieu hier au Soudan. Des militants pro-démocratie ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes lors de manifestations d'un nouveau conflit tribal entre Barti et Aoussa, illustrant selon eux l'incapacité du pouvoir militaire à gérer le pays, Nanik Talani.
Les forces de l'ordre ont installé des lobes, des blocs de béton sur des ponts reliant Khartoum à Omdurman, sa ville jumelle, ainsi que sur les principales artères menant au quartier général de l'armée. Dans le centre de Khartoum, des centaines de manifestants ont tenté d'approcher du palais présidentiel. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes pour les repousser. Hier, les manifestants ont voulu rendre hommage aux 60 victimes d'un conflit tribal déclenché lundi dernier près d'Adamadine, chef-lieu de l'État du Nil Bleu, frontalier de l'Éthiopie. Pour les anti-putsch, les généraux et leurs alliés ex-rebelles sont responsables car ils exacerbent les tensions ethniques et tribales pour leur gain personnel.
Deux cas de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés au Ghana. Les tout premiers dans le pays ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. Les tests supplémentaires effectués à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal ont corroboré les résultats selon les autorités. 98 personnes identifiées comme cas contact sont actuellement en quarantaine, lit-on dans un communiqué officiel selon lequel aucun autre cas de Marburg n'a pour l'heure été détecté parmi elles. Les services marocains de lutte anti-incendie ont progressé dimanche pour maîtriser les feux de forêt qui ravagent depuis mercredi des régions boisées dans 5 provinces du nord du royaume. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP les autorités locales. Dans la province de Larache, le plus important incendie qui couvre près de 5300 hectares a été maîtrisé à 70%, tandis que les secouristes s'efforcent de venir à bout des 5 derniers foyers de moindre importance selon des sources locales. Plus de 1000 familles ont dû être évacuées de 20 villages et quelques 170 habitations ont été détruites dans cette région et une personne est décédée à la suite des sinistres. Les causes de ces incendies ne sont pas connues, mais le facteur humain n'est pas exclu, selon les autorités. En Espagne, un pompier a été tué dans un incendie dans le nord-ouest du pays, annoncent les autorités. La vague de chaleur en Europe occidentale a continué dimanche de provoquer des feux de forêt dévastateurs et devrait se poursuivre en début de semaine, où elle pourrait faire tomber plusieurs records de température en France et en Grande-Bretagne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé dimanche soir la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes. Ces derniers ont poursuivi hier dimanche leur bombardement sur plusieurs villes ukrainiennes à la veille d'une réunion de l'Union européenne pour renforcer les sanctions. Les détails avec Rosine Munezero.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discutent aujourd'hui d'un durcissement des sanctions contre Moscou, notamment interdire les achats d'or à la Russie et inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste des sanctions européennes. Dans la nuit de samedi à dimanche, des missiles russes ont frappé Kharkiv, la deuxième ville du pays. D'autres frappes ont visé hier Mykolaïv, proche de la mer Noire. La région de Donetsk, dans l'Est, a également été ciblée. Les séparatistes pro-russes du Donbass ont de leur côté accusé les forces ukrainiennes d'avoir tiré 60 roquettes sur Donetsk. La guerre en Ukraine entre dans son sixième mois. Aucun bilan des victimes n'a été fait jusqu'à présent, mais les accusations mutuelles se poursuivent.
L'Iran a les capacités techniques de fabriquer une bombe nucléaire, a déclaré dimanche Kamal Karadzi, président du Conseil stratégique des relations internationales qui dépend du ministère des Affaires étrangères de l'Iran. Toutefois, M. Karadzi assure que Téhéran n'avait pas pris la décision de fabriquer une bombe atomique. À noter que le président américain Joe Biden vient de rentrer hier dimanche de sa première tournée au Moyen-Orient. Jeudi en Israël, il a signé avec le premier ministre israélien Yair Lapid un pacte de sécurité engageant les États-Unis à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. L'Iran a toujours nié vouloir se doter de la bombe atomique tout en accusant Israël d'être le plus grand détenteur de l'arsenal d'armes nucléaires dans la région, les termes même dimanche matin de son porte-parole des affaires étrangères, Nasser Kanani, qui a aussi accusé Washington d'attiser les tensions au Moyen-Orient. Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. 3 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dimanche par un individu qui a ouvert le feu dans un centre commercial de l'État américain de l'Indiana. Selon le maire de Greenwood, Mark Myers, le tireur a été abattu par un individu armé. L'attaque est la dernière d'une vague de violence armée qui sévit aux États-Unis, où environ 40 000 décès par an sont causés par des armes à feu, selon Gun Violence Archive. Au Pakistan, L'ancien Premier ministre Imran Khan a une nouvelle fois réclamé lundi la tenue d'élections législatives anticipées après que son parti a obtenu la majorité à l'Assemblée du Punjab, la province la plus peuplée du pays. 20 sièges vacants à cette assemblée étaient à pourvoir lors d'élections partielles dimanche qui servaient de test de popularité pour M. Khan, contraint à quitter son poste de Premier ministre en avril après un vote de censure du Parlement. Son parti a remporté 15 de ses sièges selon des résultats encore provisoires et la formation de l'actuel Premier ministre Shehbaz Sharif a dû se contenter de 4 sièges, le dernier allant à un indépendant. La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
Au Rwanda, un forum dédié aux motos rassemble à Kigali des concessionnaires, des distributeurs et des investisseurs. Entre la croissance démographique, l'urbanisation croissante et l'absence de système de transport public, le marché des deux roues en Afrique devrait franchir la barre des 9 milliards de dollars cette année. Dans le cadre de son initiative nationale visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 16% d'ici à 2030, le Rwanda a lancé l'année dernière un projet de moto électrique. L'agence FCD Africa a annoncé la semaine dernière un investissement de 3,5 millions de dollars pour soutenir des start-up à fort impact en Afrique. 40 entreprises en phase de pré-amorçage vont bénéficier de ces fonds par le biais de Catalyst Fund. La prochaine cohorte de start-up soutenue par Catalyst Fund proposera des solutions fintech pour renforcer la résilience des communautés mal desservies. Face à la perspective d'une guerre longue, l'Union européenne renforce ses sanctions contre Moscou et met en place des mesures pour faire face à une rupture des fournitures de gaz russe dont plusieurs pays membres sont très dépendants. Ces priorités sont au cœur d'une série de réunions européennes cette semaine.
Merci Claire. À présent, les sports avec Élisée Oupatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On démarre avec de l'athlétisme. Les championnats du monde à Eugene aux États-Unis et déjà des médailles pour l'Afrique.
Oui, et l'or pour l'Éthiopienne, Letensebe Gideye qui s'est imposé en finale du 10 000 mètres. Son chrono, 30 minutes 9 secondes et 94 centièmes. Elle dévance les Kenyans Hélène Obiri et Margaret Kikemboi. Chez les hommes, l'Ougandais Joshua Cheptegei conserve son titre sur la même distance devant le Kenyan Stanley Mburu et son compatriote Jacob Kiplomo. Sur les 100 mètres, pas de miracle pour le Sud-Africain Nkane Simbine qui termine 5e d'une course remportée par l'Américain Fred Kelly en 9 secondes 86. Chez les dames Idrissa, la finale a eu lieu cette nuit.
Football à présent, la CAN féminine se poursuit au Maroc.
Tout à fait. Et en attendant les demi-finales prévues pour ce lundi, on a assisté hier au match de classement qualificatif pour les barrages de la Coupe du Monde. Le Sénégal l'a obtenu après avoir battu au tir au but 4-2 la Tunisie. Le score était de 0 but partout après le temps réglementaire. Le Cameroun y sera aussi suite à sa coupe victoire 1-0 aux dépens du Botswana. Les barrages auront lieu en février 2023 du côté de la Nouvelle-Zélande.
Cette CAN féminine va livrer ses deux finalistes aujourd'hui.
Oui, au terme de deux belles demi-finales. D'abord, un duel sous-régional entre l'Afrique du Sud et la Zambie à Casablanca et à Rabat, le pays hôte, le Maroc, en découdra avec le tenant du titre, le Nigeria, dans un match choc. La finale est prévue samedi prochain.
Dans le reste de l'actualité sportive, du handball avec la finale aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations masculines.
Exactement Idrissa, et ce sera entre l'Égypte tenant du titre et la surprenante équipe du Cap Vert. Coup d'envoi du match à partir de 19h temps universel. Mais avant, on suivra Guinée-Algérie, match comptant pour la 5e place qualificative pour la Coupe du Monde 2023. A noter que c'est le Gabon qui a remporté hier la Coupe du Président après avoir pris le meilleur sur le Nigeria, score 27-18.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, quelques jours après la visite des ministres français des Affaires étrangères et des Armées sur la nouvelle approche de la France dans la lutte contre le terrorisme avec comme pivot le Niger, notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa, a interrogé quelques citoyens sur le sujet. Son reportage.
Peu d'acteurs politiques ont commenté et ou réagi à cette visite des deux ministres français au Niger sur la nouvelle stratégie française de lutte contre le terrorisme au Sahel. Dans le milieu des activistes, par contre, le sujet intéresse et interpelle beaucoup. Dr Amadou Bounti Diallo, enseignant-chercheur à la retraite.
Je pense que c'est une erreur que de voir ces gens-là partir du Mali et s'installer chez nous. Ils sont en train d'acheminer au Niger plus de 6000 conteneurs. La nouvelle stratégie, c'est qu'ils disent encadrer nos forces armées pour qu'elles puissent être opérationnelles et monter en puissance par la suite. Donc il faut espérer, mais ça m'étonnerait quand même que si au bout de 9 ans, 8 ans, au Mali, les Français n'ont pas fait leur preuve, qu'ils puissent faire cette preuve-là ici chez nous, en quelques mois ou en quelques années. Vous avez vu, quand ces deux ministres-là sont arrivés, je crois qu'ils ont tiré leur chèque. Ils ont signé un chèque, je crois, de 20 millions dans le cadre de l'aide budgétaire et un chèque de 10 millions d'euros dans le cadre donc des projets de développement.
Avis partagé par Souley Oumarou, président du Forum pour une citoyenneté responsable FCR.
Et ça fait aujourd'hui 10 ans que la France intervient au Mali et près de 10 ans qu'elle intervient au Niger, donc le terrorisme est toujours d'actualité. Donc nous n'avons aucune surprise que l'objectif véritable, n'est-ce pas, donc de la politique française au Niger, c'est tout simplement de chercher à garantir ses intérêts et à renforcer sa présence au Sahel.
Pour Lawal Seyabou, coordonnateur du réseau des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, RODAD, les Nigériens doivent être reconnaissants vis-à-vis de la France dans sa nouvelle approche pour lutter contre le terrorisme.
Moi, j'ai bien apprécié l'agenda français qui a été proposé. Les deux ministres, ils ont dit qu'eux, ils sont venus pour savoir les besoins du Niger et pouvoir s'aligner. Donc, ce n'est plus cette France qu'on pense paternaliste qui donne des ordres, mais c'est une France qui coopère, qui collabore et qui respecte les principes sacro-saints de la diplomatie, du partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenaire très sérieux et nous devons saluer ce partenariat, nous devons magnifier ce partenariat et nous devons être vraiment très reconnaissants.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, le gouvernement de transition a annoncé la date du 20 août pour la tenue du dialogue national inclusif, alors que Doha n'a pas encore dit son dernier mot et c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé après plusieurs reports consécutifs. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, a recueilli ses réactions d'acteurs politiques tchadiens.
Le 20 août a été annoncé pour la tenue du dialogue national inclusif. Le porte-parole de la convergence des organisations politiques, Salibou Garba, a fait remarquer que l'annonce a été faite de façon unilatérale et brutale.
Ça fait 4 mois que la délégation gouvernementale se trouve à Doha, au Qatar, en train de discuter avec les politico-militaires pour les faire participer à ce processus. Ça n'a pas abouti. Le médiateur qatari ne présentera son projet d'accord que le 25 de ce mois. Et c'est une semaine après qu'éventuellement les signatures vont intervenir. Et après, vous voyez manifestement, le temps qui reste est trop court pour que ce dialogue puisse avoir lieu dans les délais prévus.
Ahmad Yacoub, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, se réjouit de la convocation de cette grand-messe, même si Doha n'a pas encore dit son dernier mot.
À mon avis, c'est une bonne chose. Je me permets aussi de dire que les 16 millions de Tchadiens ont beaucoup attendu et ils ne vont pas continuer à attendre indéfiniment les pourparlers de Doha. Le Tchad est otage de Doha depuis 4 mois et cela suffit. Nous devons avancer.
Cette manière de faire risque de replonger le Tchad dans le chaos, estime Salih Bougarba, porte-parole de la convergence des organisations politiques.
Les autorités n'écoutent pas. On fait des propositions. Elles ne veulent pas. Elles sont obsédées par une seule chose, conserver le pouvoir. Et en continuant comme ça, ils amènent le pays vers le gouffre.
Désiré Mbeiramadi de la Synergie du Peuple disant non à la prolongation de la transition se dit pessimiste et met en garde le Conseil militaire de transition contre la prolongation de la transition.
La transition doit prendre fin le 20 octobre. Donc c'est une manière de nous faire savoir que nous n'avons pas encore pu finir le dialogue, que c'est des stratégies pour prolonger cette transition. Comme eux, ils ont les armes, nous avons la rue. C'est au niveau de la rue que nous allons revendiquer notre pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple, ça n'appartient pas aux militaires.
L'activiste Rassou Gagui ne croit pas à ce dialogue qui va engloutir beaucoup d'argent pour rien. Il propose comme solution de ramener la loi fondamentale de 1996.
Je crois que c'est une comédie. Ça devient même monotone. Dialogue, dialogue.
Non, 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 je n'en ai pas besoin.
Moi, je leur ai dit, après le décès du feu président de vie,
on rétablit notre constitution de 1996 et on essaie d'amnistier ceux qui ont pris les armes. Avant, c'est parce que Déby avait sauté le verrou de mandat. Et maintenant, si tu veux le pouvoir, mieux le prendre par les urnes.
Sur place à Doha au Qatar, 3 groupes rebelles et alliés tchadiens dénoncent les tentatives répétées de la délégation gouvernementale de se substituer au médiateur par des manipulations et des manœuvres pour perturber la sérénité des négociations. Ils ont suspendu leur participation afin de permettre, selon eux, aux médiateurs de créer un environnement propice à la reprise des discussions. Un autre groupe surgit et qualifie les signataires du document d'un groupuscule hostile à la réconciliation et au retour de la paix au Tchad et confirme qu'ils restent dans les négociations en vue de parvenir à une paix globale et durable répondant aux attentes et aspirations du peuple tchadien. André Kodouma Djingar Njamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus d'un an après l'éruption du volcan Nyiragongo, près de Goma, le gouvernement n'a relogé qu'une centaine de familles. Plus de 3000 autres personnes sont toujours dans les camps de sinistrés vivant dans des difficultés énormes et sans aide. Elles dorment ces personnes dans les maisons de fortune installées dans les cours des écoles ou des églises. Le reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
Une année et 2 mois après cette catastrophe, le gouvernement congolais a offert une centaine de maisons à quelques sinistrés. Marie-Claire Ndigiré est parmi les bénéficiaires, même s'il y a encore quelques problèmes.
On souffrait pour dormir, les moyens pour manger, c'était vraiment un calvaire. Maintenant, je suis très contente. Maintenant, nous aussi, on peut vivre comme les autres. On peut même dormir dans une maison. Mais certainement, il nous manque encore quelque chose. Depuis qu'on est là, on manque ou puiser de l'eau, mais aussi nos enfants qui n'étudient plus. Ça fait une année. Nous demandons donc au gouvernement de nous aider encore et de voir comment ces enfants peuvent reprendre le chemin de l'école.
Dans les camps de Kayembe, plusieurs autres sinistrés continuent à vivre sans installation sanitaire, sans accès à l'eau potable et sans aide alimentaire. Certains ont même commencé à compter les morts. Kavira Maombi, sinistré dans les camps de Kayembe, témoigne.
Nous souffrons amèrement. On ne nous assiste plus. Nous souffrons surtout de la faim. Et il y a aussi des morts dans ce camp. Récemment, on a enterré une mère de 42 ans et qui n'avait aucun enfant. Le gouvernement n'a rien apporté pour aider ses proches. Nous sommes dans une souffrance atroce depuis 1 année et 2 mois. Nos enfants sont devenus des délinquants car ils ne partent plus à l'école. Je demande de l'aide, qu'on nous aide à sortir de ce camp et qu'on nous considère comme les autres sinistrés qu'on a déjà aidés.
Ces maisons situées dans les territoires de Nyiragongo ont été construites sous la houlette de l'actuel gouverneur de la province des Lualaba. La société civile appelle les bonnes volontés à emboîter les pas pour aider les sinistrés toujours coincés dans ces camps.
Nous remercions et encourageons l'œuvre posée par le gouverneur du Lualaba et qui a réussi à construire quelques maisons en faveur des sinistrés. Mais c'est une gouttelette dans le plus de 3000 sinistrés qui sont dans le cas des sinistrés. Il faut dire qu'il y a que moins de 10% ont bénéficié de ces maisons. Voilà pourquoi nous lançons un appel à SOS, à toutes les personnes de bonne volonté et qu'ils suivent le modèle de Mme Fifi Masuka, qui s'est distinguée parmi plusieurs Congolais.
En début de ces mois, 50 familles ont été relogées dans les logements sociaux, mais les sinistrés se comptent par milliers et vivent toujours sans abri. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden est revenu hier à Washington après avoir rencontré la veille des dirigeants arabes à Jeddah en Arabie Saoudite. À la fin d'une tournée de 4 jours au Moyen-Orient, il a réitéré l'engagement des États-Unis pour contrer l'Iran et réaffirmé la présence américaine face à la Chine et à la Russie. De Jeddah, un reportage de Patsy Udakuswara. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Joe Biden a discuté avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dont le royaume a un bilan si mauvais en matière des droits de l'homme que le président américain l'avait qualifié de paria après l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie. Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.
Ce que fait le président Biden, c'est suggérer que les droits de l'homme n'ont aucune valeur et peuvent être marchandés pour une série d'autres impacts.
Face à cette critique, le président Joe Biden s'est justifié sur l'engagement des États-Unis auprès d'un allié de taille dans une région où il y a beaucoup de concurrence.
Nous n'allons pas nous retirer en laissant un vide qui sera occupé par la Chine, la Russie ou l'Iran. Nous allons chercher à tirer parti de ce moment grâce à un leadership américain actif et fondé sur des principes.
Il a énoncé les principes de cet engagement dans la région pour soutenir les capacités de défense, dissuader les puissances qui cherchent à dominer par des actions militaires ou à mettre en péril la liberté de navigation, une allusion à peine voilée à l'Iran. Et dès le lendemain, dimanche, l'Iran a aussitôt accusé les États-Unis d'attiser les tensions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit dans un communiqué que Washington, en essayant de créer des tensions dans la région, a, une fois de plus, recouru à la politique de l'iranophobie et que, selon lui, c'est raté. Le président russe Vladimir Poutine est attendu à Téhéran dans les prochains jours, en pleine tension dans les marchés pétroliers mondiaux. Samedi, lors d'un sommet à Jeddah, Joe Biden et les dirigeants arabes du Golfe ont discuté de sécurité énergétique, mais n'ont pas annoncé d'augmentation de la production de pétrole face à la hausse des prix du carburant. Le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, ne s'est pas clairement engagé à pomper plus de pétrole.
Le royaume va jouer son rôle dans ce domaine car il a annoncé une augmentation de sa production à 13 millions de barils par jour. Ainsi, le royaume n'aura pas de capacités supplémentaires pour augmenter sa production.
Enfin, M. Biden a déclaré dans une salle où il n'y avait que des hommes, dont une bonne partie habillée en djellaba, que l'avenir appartient au pays où les femmes peuvent exercer des droits égaux
et contribuer à la construction d'économies plus fortes, de sociétés résilientes et de forces américaines plus modernes et plus compétentes.
Alors que Washington lance son plan mondial d'infrastructure pour contrer l'initiative chinoise appelée « Ceinture et route », M. Biden a salué la promesse de 3 milliards de dollars faite par les dirigeants arabes du Golfe pour ce programme.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. We'll be right back.